Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Salut, bonsoir, bonjour, c'est Radio Lomax en direct du 106, la salle de concert rouennaise. Nous sommes en direct sur la web radio du 106 Radio, le 106.com. Diffusion sur Principe Actif à Évreux, 102.4 et 95.9 dans le sud de l'Eure. Et sur HDR, sur la métropole rouennaise, le lundi à 18h. Aujourd'hui, on accueille le grand tout, le globe qu'on gobe en ouvrant grand les bras, le monde, the world. Avec cet extrait de Drugs. Et ceux qui en font partie de ce monde, les humains de The World en quelque sorte, et The World est normand, tout comme les humains de Grand Parc. Normand du quartier du Grand Parc à Caen. C'est donc bien le dialogue du local et du global auquel nous allons assister ce soir sur la radio du 106 et sur la scène du 106, le tout abrité sous le toit de l'amour. Et cette injonction envoyée aussi bien au monde qu'au quartier de Grand Parc. Embrasse-moi.
Je voudrais te voir descendre plus bas encore, les choses se perdent.
Embrasse-moi, d'ailleurs, entre Rouen et Caen, entre The World et Grand Parc, et donc bien entre le global et le local. Embrasse-moi, idiot, c'est beaucoup mieux que des mots, comme dirait l'autre.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Grand Parc avec nous, Nicolas Marsan et Annie Langlois, créent Grand Parc courant 2012. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Grand Parc, c'est un quartier à Hérouville-Saint-Clair, dans la banlieue de Caen. Vous pouvez nous parler de ce quartier, pour commencer ?
Bah oui, c'est un quartier qui est en train de changer, mais c'est un... En fait, Hérouville-Saint-Clair, c'était un peu une ville du futur dans le passé.
Le futur du passé. Le futur du passé.
Ça a été une ville complètement construite de manière artificielle, ça veut rien dire, mais une ville qui a été pensée comme les villes un peu périurbaines dans les
années. Un peu comme Val-de-Reuil, par exemple, dans l'Eure.
Exactement, avec du coup des tours, pas mal de tours, des quartiers où on pouvait pas circuler en voiture et de la culture, genre une super bibliothèque, un cinéma d'art et d'essai, un théâtre, le commissariat aussi, parce que bon...
Ah hein. Forcément, il faut un commissariat.
Donc voilà, c'est juste en banlieue de Caen et c'est au nord de Caen, donc on n'est pas très loin de la mer et ça c'est plutôt cool.
Et c'est dans ce quartier que vous avez commencé à faire de la musique ?
Tout à fait. En fait, c'est surtout dans la maison...
Ensemble, en tout cas.
Oui, ensemble, oui. Oui. Toi, Danico, t'as commencé la musique avant d'habiter le quartier. Mais moi, en fait, non. J'ai commencé là. Et en fait, on a une maison dans laquelle on vit à plusieurs. Et on a commencé dans le sous-sol. Et les copains passaient à la maison et ils nous disaient « Alors, Grand Parc, vous foutez quoi ? Grand Parc, ça avance. » Et en fait, on ne savait pas comment s'appeler. Puis on s'appelait comme ça.
Et d'accord, vous êtes appelé comme ça parce que...
Parce que les copains.
Les amis nous
ici
ont appelé
à Grand
comme
Parc,
ça.
En fait. Bon, oui. Grand Parc, du coup...
Bon, on faisait des soirées aussi, on faisait quelques...
Pour d'autres questions, Grand Parc devenait une espèce de dénomination pour des soirées, pour des bouffes, pour des...
Ouais.
C'est toujours le cas ou...
C'est toujours le cas.
Complètement.
Oui, par exemple...
Il y a des soirées Grand Parc, il y a
ouais.
Des...
Ah ouais. Par exemple, le 12 février, on organise un concert dans notre salon, donc c'est concert au Grand Parc.
Ok. Dans ma petite introduction, j'évoquais le rapport entre le global et le local. Vous avez l'impression d'être un groupe de proximité. Forcément, quand on prend le nom d'un quartier, ça peut amener à ça, qui pourrait exister dans une forme de, je sais pas, relocalisation de la musique, des arts, de la culture en général, tout en ayant un regard plus universel. Est-ce que ça vous parle, ça ?
Je ne sais pas si j'ai bien capté la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on est conscient qu'on est quand même sur un territoire, donc on est quand même un groupe local au sens où on travaille aussi avec des gens d'Hérouville, avec non seulement la SMAC, entre guillemets, du coin, le BBC, mais aussi on travaille dans des écoles, on fait des choses avec les enfants du coin. Donc il y a ce côté hyper local où on est content de rencontrer la population qui nous environne. Et en même temps, nous, notre culture, notre influence musicale, artistique, tout ça, elle vient beaucoup de l'Angleterre, des États-Unis. On a un groupe vraiment de pop anglo-saxonne, d'une certaine manière. Il y a quelques gens qu'on aime bien dans la musique française, comme Bertrand Belin, tout ça. Mais en fait, on vient plutôt de l'outre-Manche, dans notre influence, alors qu'on est français.
quand on a la manche juste en face de soi, forcément.
Exactement. Ça, ça nous, on a quelques arrivées d'anglais en plus avec Wistreham et tout. Donc là, je dirais que nous, forcément, on regarde un peu le chez nous et l'extérieur. On est un peu à la limite de tout ça. On joue pas mal quand même à domicile parce qu'on a quelques copains qui nous programment tout ça. Mais artistiquement parlant, c'est clair qu'on n'est pas forcément influencé par notre ville en tant que telle. Si c'était qu'il y a peut-être une mélancolie normande liée à la pluie dans notre musique.
La normandite.
On appelle ça la normandite, nous. Le syndrome normand. Mais comment dire, oui, il y a des choses qui sont nordiques d'une certaine manière et anglo-saxonnes. Après, là, on fait des efforts. Depuis qu'on est ado, on essaie de faire de la musique un peu plus dansante, entre guillemets.
Et ce serait quoi la normandite, alors ?
La normandite, c'est un mélange de... Vas-y, Nico, tu pourrais peut-être mieux le dire.
Non, je sais pas. C'est un... enfin, en tout cas, c'est un truc qui est un peu sorti. C'est assez... comment dire, ça reste un peu entre amis, quoi, qu'on se dit ça. C'est un genre de manque de confiance générale sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, sur ce qu'on projette, tout ça.
Et extrême pudeur aussi.
Il y a un manque de concrétisation, quelque part, de tout ce qu'on aura envie de faire. Ça fantasme beaucoup, ça rêve beaucoup, et ça a du mal à cheminer et à rendre les choses concrètes, quoi. Parce qu'il y a une espèce de truc au fond qui n'est pas sûr, qui n'est jamais complètement sûr, quoi. Et qui a peur de tomber, qui a peur de chuter, quoi. Voilà,
ça viendrait de quoi, ça ?
Aucune idée.
Ah, je sais pas.
Au territoire, justement, au caractère de ce territoire.
Ouais, il y a un truc comme ça, un truc, je sais pas. Alors, c'est pas du tout peut-être un complexe inconscient par rapport à Paris qui a 2h30, je sais pas. Mais et en même temps, il y a la Manche qui fait que c'est pas l'Angleterre non plus, c'est pas les Clash, c'est pas Bowie, on n'a pas tout ça non plus. Donc il y a des villes comme Rennes qui ont quand même des passifs du rock, tout ça important. Mais à Caen, on est une ville un petit peu complexée dans les esprits. Enfin, quand je dis ça, en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est une petite ville, mais il s'y passe beaucoup de choses. En plus, je dis ça, on est complexé, alors qu'en fait, il y a plein de groupes à Caen. Il y a beaucoup de choses qui se font de manière alternative, tout ça par rapport à la grandeur de la ville. Mais il y a une espèce d'humeur un peu... c'est pas un peu le syndrome de l'échec, mais il y a un truc un peu genre... ou la peur de la réussite, j'en sais rien. Il y a un truc un peu... working class aussi, au sens beaucoup de choses qui se font dans les
en sous-sol, quoi.
En sous-sol et tout.
Mais
et
ça, c'est vrai pour beaucoup de villes quand même.
Non, ça c'est vrai pour beaucoup de villes, mais c'est vrai que nous, il y a un peu, on se prend beaucoup la tête sur des questions d'éthique, de machin, de trucs. Ça manque de fun.
On attend le Normandol, le médicament miracle.
C'est
on l'attend tous. Le Normandol.
Et il arrivera peut-être un jour. On va revenir sur votre histoire. Vous vous rencontrez et puis rapidement, vous vous dites, on va faire de la musique ensemble.
Pas du tout. Enfin, je veux dire, Nico et moi, ça paraît prétentieux, mais c'est vrai, en fait, on est les deux personnes qui composons dans Grand Parc, même quand on était à quatre. Après, on faisait des répètes avec les copains. À l'époque, c'était Charles-Antoine et Julien. Et d'ailleurs, on les salue parce que c'est vraiment des super potes à nous, on les adore. Mais on arrangeait des choses avec eux, on faisait beaucoup de retours, mais c'est vrai que c'est nous qui apportions la matière quand même. Et Nico et moi, on s'est rencontrés en 2002-2003 et on a commencé à faire de la musique en 2012, en fait. Donc ça a mis du temps. Moi, j'ai commencé, j'avais 30 ans, en fait. J'ai 37 ans, si je commence à vieillir. Mais donc c'est arrivé tardivement. Toi, Nico, je ne vais pas trop parler, tu as eu d'autres formations avant, mais Grand Parc, c'est arrivé tard, en fait, dans notre rencontre.
J'ai vu, oui, Nicolas, que vous aviez collaboré notamment avec Catel. Oui. Ça, c'était une expérience, on va dire, quoi, formatrice. Vous avez tiré quoi de ce travail avec elle ?
Ouais, complètement formateur, ouais, parce que moi, j'étais pas vraiment sorti de pour le coup de ma cave, hein, à l'époque. Clairement, Karen, elle est venue me chercher pour chercher quelqu'un, quoi, un musicien. Ouais, effectivement, moi, je me suis retrouvé très vite à jouer dans des SMAC, dans des festivals. Puis des gros trucs, hein, genre à La Réunion, le Sakifo, en Suisse, j'ai plus le nom du
Paléo.
Le Paléo, voilà. Donc c'était quand même des choses de grosse envergure, du studio, des choses comme ça. Effectivement, enfin, moi, ça a été formateur, ouais, effectivement. Hein, c'est une expérience qui m'a fait progresser énormément. Ouais.
Elle est bretonne, Catel, non ?
Alors Karen, elle est
d'origine
bretonno-normande.
Ouais. Et maintenant parisienne. Ouais. Elle habite à Paris, donc elle a plus la normandite. Elle est partie, elle.
Elle a trouvé le médicament.
Oui.
C'est de partir. Justement, vous êtes parti sur quelle base, vous, pour produire votre univers ?
Avec Grand Parc, c'est assez. Je dirais, c'est assez improvisé comme façon de faire. Il n'y a pas vraiment d'anticipation sur les chemins à prendre. C'est assez instinctif, finalement, quoi. Et la réflexion sur ce qu'on fait, elle se fait plutôt à rebours. Donc oui, il y a quelque chose qui est assez comment dire, ouais, encore une fois, instinctive, qui réfléchit pas trop, qui conceptualise pas trop, malgré le fait que il y a quand même des choses qui sont assez chargées, c'est vrai, dans ce qu'on,
ouais,
dans
parce
ce qu'on
que
fait.
C'est de l'instinct, mais avec des cerveaux très compliqués.
Voilà, c'est ça, quoi.
Du coup, il y a quand même de la prise de tête sur des enchaînements d'accords. Il n'y a jamais les mêmes mesures qui se répètent. Ça donne des fois des choses un peu laborieuses, mais qui font que ça sort du schéma 4-4 parfois. Et ça, c'est plutôt pas mal. À la limite, parce que je pense qu'il y a des trucs dans la pop ou le rock qui à inventer aussi dans les sens, ouais, dans les mesures de sortir du 4-4, d'être tout le temps sur le temps, d'être sur les contretemps. Grand Parc, ça cherche un peu tout ça. Ça cherche un peu une musique qui, mais sans s'en rendre compte, hein. Mais
l'accident, quoi.
Des accidents. Mais bon, des accidents un peu volontaires, quand même.
Tout en restant dans quelque chose d'assez pop, quand même.
Ouais, ouais. Ouais.
C'est la recherche, elle est là, quoi.
C'est la mélodie, le pop.
Ça reste des chansons.
Dès qu'il y a de la mélodie, en fait, c'est pop. Parce que Björk, c'est pop. Kate Bush, c'est pop. Mais en fait, les Talkinettes, c'est pop. Je vois cheveux, on pourrait aussi des fois y mettre de la pop. Même s'ils intègrent de la world music maintenant. Mais en fait, c'est pas parce que, je sais pas, c'est pas ça du tout que je voulais dire. Comment ça s'appelle l'habit qui est long, je sais plus, il me manque le mot, mais quand on est Touareg aussi, le turban, tout ça. Enfin, je pense que la pop, elle est universelle. Ce qu'on appelle des fois de la world music. Enfin, moi, je trouve que c'est une manière des fois caricaturale de dire ah, tu n'habites pas la France. Mais il y a plein de pop un peu partout dans le monde et c'est la mélodie, en fait, pour nous. Et après, là-dedans, il y a des questions rythmiques. Et rythmiquement, c'est vrai que Grand Parc, c'est peut-être un petit peu chargé. Mais il y a des choses qu'on pourrait un petit peu soustraire. Mais...
Bah, en tout cas, pour le moment, on l'exprime de cette façon-là.
Ouais. On est chargé.
Le clip d'Enkestra, c'est une succession de pas de danse acrobatique.
Ouais.
Norse, c'est un mime qui ressemble au mime Marceau.
Bah, c'est le mime
Marceau. C'est le corps qui s'exprime aussi. J'ai l'impression que c'est important aussi pour vous, ça.
Ouais. Oui. Alors, vas-y, tu peux peut-être...
Bah, non, rien de particulier. Ça, c'est pareil. J'ai l'impression que ça fait partie un peu d'un fantasme, comme parfois on a l'impression d'être un peu emprisonné par nous-mêmes, par notre esprit, par le corps, etc. À un moment donné, de représenter des gens qui sont complètement à l'aise avec ça et qui sont expressifs à 100% avec ça, c'est un genre de projection. Et c'est aussi dire, par exemple sur Enkestra, qui était un truc un peu... pseudo-mat-rock, ou je sais pas comment on pourrait appeler le style de cette chanson-là, et on voulait le sortir un peu de son côté presque un télo, et Annie a eu l'idée clairement d'aller chercher le corps et la danse pour le sortir de son côté de là où on aurait pu le ranger, c'est-à-dire dans le mat-rock, et dire bah non, mais en fait c'est un morceau dansant,
ouais,
un morceau
ça.
Pour le corps, quoi,
ouais,
voilà.
Ouais.
Ce qui est pas forcément évident quand on l'écoute, quoi. Ça met une autre traduction, une autre lecture sur le morceau, quoi.
On parle juste quelques mots d'Alice Jefferson.
Oui.
Alors, oui. Alice Jefferson, finalement, c'est une association.
Tout à fait. Rouennaise.
Rouennaise, que vous connaissez comment, qui fonctionne comment, vous savez ou pas? Parce que moi, je connaissais pas, en fait, cette association, Alice Jefferson.
Alors, je sais pas, sinon, on peut tout expliquer bien. Elle est là. En fait, Julie, qui la représente et qui est la personne qui s'occupe de cet asso et qui a eu l'idée de faire un plateau de groupe normand au 106 et de défendre, on va dire, la scène locale, globale, etc. C'est quelqu'un qu'on a rencontré suite à l'organisation aussi de concerts plus alternatifs, c'est-à-dire, non pas que le 106 n'est pas alternatif, mais hors institution, on va dire, et nos offenses, les institutions, on en a besoin. Mais on l'a rencontré, franchement, pour être honnête, c'est des histoires d'apéro, tout ça. Et c'est quelqu'un qui est féru de musique, elle est venue aussi à Caen voir des concerts. C'est quelqu'un de généreux. Elle a fait jouer aussi Fiodor, par exemple, Dream Dog, dans lequel joue Nico, à l'oreille qui traîne. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui a l'intelligence de mêler des choses qui sont un peu hors des clous en termes de musique et d'aller voir des institutions ou d'autres acteurs de sa localité pour travailler avec eux et de mélanger du coup quelque chose qui semble petit comme ça, une asso et ses désirs est quelque chose qui est déjà en place. Je suis par exemple une SMAC comme ce soir, le 106, et de croiser en fait à la fois soit des esthétiques, mais aussi des manières d'être, je sais pas. Et je pense qu'elle a une vision, pour le coup, elle transversale des choses et qui, en tant qu'association, est porteuse quand même de rencontres. Enfin, voilà, on se rencontre là. Ouais. Je ne sais pas si on peut devenir amis, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, déjà, c'est un acteur, je pense, Julie. Et Alice Jefferson, son asso, c'est un acteur culturel.
Qui crée du lien.
Qui crée du lien, exactement, et qui a des désirs un petit peu, on va dire, ambitieux aussi, esthétiquement parlant. C'est-à-dire, voilà.
Vous êtes en train d'écrire de nouveaux titres, j'ai vu. Ouais. C'est une période particulière pour vous en ce moment ?
Bah, on n'a pas le choix. En fait, mais tant mieux, parce qu'en fait, c'est ce qui fait qu'on ça pousse aussi. Mais en fait, on est passé à deux pour des raisons de planning, parce qu'on commençait à être des gens vieillissants, avec des copains, qui ont des musiciens qui ont des enfants, puis d'autres choses, enfin d'autres projets, et c'est super. Et puis, à force, les problèmes de planning, les problèmes de Google Agenda commençant à devenir compliqués, on a décidé, il y a un an et demi, de faire un concert à deux. Et paf, on l'a fait, en se disant, on l'a fait, bah, du coup, on en a refait un autre quelques mois après, ça a mis un petit peu de temps. Et en fait, on se rendait compte qu'on ne pouvait plus faire la musique de la même manière. On ne peut pas simuler un batteur, on ne peut pas simuler un bassiste. Voilà. Mais par contre, si on passait à deux, tout de suite, le côté folk... En plus, on a un garçon et une fille, alors ça fait June et Jen, ou John et Jenny, enfin, je ne sais plus comment ils s'appellent, tous ces groupes avec un garçon et une fille sous une forme folk.
Ça commence avec J à chaque fois.
Oui, voilà. Et encore une fois, moi, on aime aussi la folk, mais on avait besoin quand même de tempo, de vitesse, de rythmie et tout. Donc, on est passé par des formes plus électroniques. On a un ordinateur. Pour le moment, on a de la chance, il ne plante pas. et du coup, ça a changé la musique. Et du coup, on est obligé de composer parce qu'en fait, pour pouvoir avoir un répertoire nouveau, en fait, parce qu'on a changé de formule.
Donc là, vous êtes en train de renaître aussi, oui, de produire la suite de l'histoire. Eh ben, merci à tous les deux, il est temps de vous
merci
laisser.
Bah, merci pour ces chouettes questions.
Nicolas, Annie, Grand Parc pour ouvrir la soirée sur la scène du club du 106. On vous retrouve sur scène à partir de 20h30.
Oui, tout à fait, merci beaucoup.
Inside, like the sun.
Et on accueille à présent Embrasse-moi, Antoine Simoni, Emmanuel Adjadj, Annie Langlois, qui effectivement fait partie des deux groupes, Embrasse-moi et Grand Parc. André Pasquet, qu'on retrouve avec The World également tout à l'heure, sont avec vous. Bonsoir à Bonsoir. Antoine et Emmanuel.
Bonsoir.
Une injonction donc plutôt agréable hein, pour ce groupe de Caen, lui aussi. Un premier album sorti en avril dernier, un 7 titres coup de cœur, et puis une nouvelle production devait sortir en janvier. C'est fait ou pas?
Non, ça sortira en avril.
Ah, mais c'est sorti en avril ?
Non, ça va sortir en avril.
Ah d'accord, mais il y a bien un 7 titres qui est sorti en avril aussi ?
L'année dernière,
ouais,
oui.
C'est ça, donc vous sortez des productions qu'en avril en fait.
Oui, on aime beaucoup ce mois.
Et donc, vous sortirez quoi en avril prochain ?
On va sortir un EP qui sera le commencement d'un album.
Voilà. D'accord, en prévision de l'album donc.
Ouais, ouais.
Une première marche.
Ça tease, quoi.
On fait les choses petit à petit, marche après marche.
Exactement.
En dehors de la présence d'Annie et d'André, qui sont donc, qui, comme on le disait tout à l'heure, jouent dans les deux groupes qui sont présents aussi ce soir, quel genre de lien existe entre les groupes ce soir?
À part le lien.
Notre façon de voir la musique, je pense.
Je t'en prie. Allez.
Après, il faut développer, je ne vais pas pouvoir développer.
C'est quoi votre façon, votre façon d'envisager la musique?
D'être juste, d'être vrai, d'être dans la musique, de ne pas chercher à plaire, d'être ce qu'on est. Je pense qu'on peut retrouver ça dans Grand Parc et puis dans The World.
Je dirais aussi la volonté d'expérimenter, peut-être d'improviser aussi, ça, je ne sais pas si c'est véritablement le cas. Est-ce que c'est un prérequis, l'expérimentation, par exemple? On peut dire ça? Pas forcément.
On se tutoie. Hein. Ouais. Tu veux parler d'Embrasse-moi?
Ouais,
tout à fait. On expérimente à mort.
C'est un prérequis, c'est-à-dire qu'on commence par se dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, comment on pourrait expérimenter.
Ouais, et puis on le continue sur scène, et puis on finit par ça aussi, donc on expérimente tout le temps. Mais...
Oui, c'est ça, on pourrait parler de laboratoire, ça vient de... Il n'y a pas de... Comment dire, on répète pas ensemble pour faire les morceaux, on s'enferme et on s'amuse avec les sons, avec des propositions basse-batterie, enfin voilà.
Et ça, après, vous arrivez à le reproduire sur quelque chose qui va, qu'on va imprimer, un disque, des pistes numériques. Et puis, sur scène également, comment est-ce qu'on s'empare de la substantifique moelle de ce qu'on produit quand on s'amuse comme ça, enfermé?
Alors, c'est là tout l'art de l'improvisation. C'est-à-dire qu'il faut juste accepter ce qui arrive.
Et comment on fait son choix là-dedans? Parce que...
Ah, mais il n'y a pas de choix, ça arrive.
Mais c'est ça, il faut se laisser complètement aller aux choses.
Tout à fait.
Y a encore moyen donc, d'expérimenter dans la chanson française aujourd'hui.
Mais oui.
Vous faites de la chanson, on est d'accord.
Ah,
on peut dire ça.
Et même en français, effectivement, donc c'est de la chanson française.
Il n'y a pas de code, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de code, il n'y a pas d'acquis, tout est possible.
Et donc, il n'y a pas de piste non plus, du coup.
Piste à
emprunter.
Non. Non, c'est plutôt des états, en fait. On va travailler plutôt sur des états qui vont donner de la matière, qui vont amener à une autre matière. Des états, je parle, par exemple, ça peut partir... Enfin, chacun de son côté, on se raconte des choses et voilà, c'est dur à expliquer.
Et vous partagez ensemble ça? Est-ce que c'est quoi, quand vous vous racontez des choses, vous racontez quoi des histoires, des plans de musique, des...
Mais on se raconte ce qu'on veut, en fait, c'est-à-dire que suivant, si c'est mardi, on va se raconter une recette de cuisine, et le mercredi, on va se raconter une histoire qui nous est arrivée. La musique reflète la vie comme on la vit, et donc voilà, elle est là, l'improvisation, c'est-à-dire que chaque jour est nouveau, donc la musique peut être renouvelée chaque jour.
Alors j'en reviens au fait de figer la musique aussi, parce que quand on la met sur un support, elle est figée. Quand on va sur scène, elle n'est pas forcément figée, mais en tout cas, il y a quand même des bornes. Comment est-ce qu'on arrive à choisir ce qu'on va figer, du coup?
Alors, tu sais, c'est comme une belle photo.
Ouais.
Voilà. On prend beaucoup de photos et puis il y en a une qui nous fait plus et puis voilà, on va se baser sur cette nouvelle référence.
Alors forcément, c'est pas ce qu'on va chercher en premier lieu dans la chanson française, l'expérimentation, on va dire. Quand vous observez le spectre très large de la chanson française, notamment celle qui produit des tubes sur les radios généralistes, et souvent quand on pense à chanson française, on pense souvent à cette chanson-là. Par exemple, vous n'êtes pas de ceux qui revendiquaient l'héritage d'un Balavoine ou d'une Véronique Sanson aussi ?
Non, Nana Mouskouri, si.
Nous ne connaissons pas ces gens, enfin, on les connaît pas.
Si, moi j'ai eu un coup de cœur pour Nana Mouskouri, son premier album qui avait été écrit par Gainsbourg et Boris Vian.
C'est ça, mais c'est plutôt ça votre cas, vous, c'est Gainsbourg, période Bonnie and Clyde dans sa vision concept album un peu.
Alors on n'a pas pensé comme ça, on ne s'est jamais dit ça. Après, du coup, forcément, on a notre culture musicale, c'est inconscient, en fait, je pense.
Non, mais après, c'est Mos Def, Tribe Called Quest, et puis Ravel, et puis voilà, on mélange tout allègrement. Les clichés par rapport à la chanson française n'existent plus, en fait. On aime raconter qu'on est toujours... on vient des Balavoine et des Sanson, etc. On peut se libérer de tout ça, hein.
Oui, mais alors du coup, moi, ça m'a fait penser à des choses quand même, ce que j'ai pu entendre. Il y avait par exemple un petit côté Little Rabbits.
Dans la piscine de tes parents, qu'est-ce qu'on s'emmerde ? C'est marrant sans tes parents.
Sinon... Dans lequel on trouve toujours un petit côté gainsbourgien aussi, mais aussi on penche du côté de Coco Rosie. It sends evil spirits. Peut-être encore un peu plus de nous avec Mansfield Tia.
C'est la mer du Nord, mais avec toi, tout est lancinant, ça devient rieux. Tout est lancinant, mais tout est trop chaud, pourtant ce soir, il fera zéro.
Voilà, donc on peut dire que c'est des artistes qui sont proches de vous.
Bah ouais, moi j'aime bien Mansfield Tia. Super, Little Rabbit je connaissais, mais je connaissais pas ce morceau. Et bah oui, j'aime bien son phrasé à Mansfield Tia, sa façon de poser les textes, ça crée du dramatique alors que c'est très léger, moi j'aime beaucoup.
Et alors j'ai vu que vous ne citiez que deux noms d'artistes en référence sur votre page Facebook, Kouyaté Nerman. Un duo de Xylo, Antoine Simoni, qui a travaillé avec Kouyaté Nerman, mais aussi avec Nadea. Vous êtes aussi membre de Cannibal et de Squeak, groupe spécialisé dans le karaoké live. Au départ, il y a donc Emmanuel et Antoine, si j'ai bien compris. Vous nous racontez comment est née votre collaboration, comment est née Embrasse-moi, finalement ?
Tu peux le dire.
Je peux le dire. On est tombé amoureux parce que c'était le moment de faire notre musique. On s'est rencontrés sur le quai de la gare à Saint-Lazare et nous nous sommes donné rendez-vous il y a quelques années de cela. Et puis voilà, depuis ce moment-là, on fait de la musique ensemble.
C'est pour ça que vous parlez d'Odyssée amoureuse.
Mais tout à fait.
Voilà, c'est une épopée quasiment.
Mais tout à fait, l'amour est une épopée.
Et que vous racontez dans votre musique aussi.
Je ne sais pas si on sait faire grand-chose d'autre que de raconter ça, mais on aime bien le faire. Ouais.
Mais artistique, hein, l'Odyssée amoureuse.
Ouais.
Ah ouais.
Emmanuel Adjadj, vous venez plutôt de l'univers du théâtre contemporain. Et justement, Antoine, dans une interview, parle de scène, de quelque chose de théâtral et cinématographique dans votre musique. Vous nous expliquez en quoi est-ce que, peut-être votre rôle là-dedans aussi, est-ce que l'art contemporain, le théâtre contemporain peut-être a apporté dans votre musique, dans votre façon de faire ?
Sûrement par rapport à l'écriture, oui. Parce qu'on travaillait beaucoup justement en théâtre contemporain, on travaille beaucoup sur des performances et de l'improvisation. Et moi, ce qui m'a toujours plu, c'était la parole à l'intérieur de ce théâtre. Et peut-être qu'on retrouve ça dans ma façon d'aborder les textes dans Embrasse-moi. Mais après, c'est pas calculé. Enfin, Mais pour moi, voilà, il y a une justesse à avoir et c'est super dur d'être juste quand on fait de la chanson française parce que on peut très vite tomber dans, pas dans le cliché, mais dans le fait de l'illustration. Et effectivement, il y a des auteurs que j'ai beaucoup aimé et si je relis, ben j'ai l'impression pas que ça ressemble, mais je vois d'où ça peut venir, l'écriture.
En tout cas, on sent dans votre démarche une vraie intégrité, une vraie envie de d'être très raccord avec votre pensée, votre vision de ce que peut être la musique. Enfin, c'est très large. J'ai du mal finalement à le verbaliser.
Mais en fait, tu sais, la paix aujourd'hui, elle est juste dans le fait de reconnaître cette différence. Et nous, on est différents. On essaie de faire de la musique différente. On n'arrive pas à faire de la musique comme les autres. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, ouais, on va cultiver cette différence. Et peut-être que c'est ça, en fait, ce que tu as du mal à nommer. C'est que effectivement c'est ça l'originalité de l'embrassement. Voilà.
Eh bien, on ira découvrir ça sur scène tout à l'heure. Donc, on le disait, Annie fait le lien entre Grand Parc et Embrasse-moi. André Pasquet, batteur de The Agamemnons, de Feu Saint-Axeor, de Gulle de Bois, batteur chez Embrasse-moi et aussi dans The World. Et justement, on va accueillir The World dans quelques instants. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci, merci à toi.
et on accueille le troisième groupe pour cette soirée, The World. Un putain de nom hein, pour un groupe sans frontières, sans limites, avec tout dedans, les bras grands ouverts pour la vallée. Un nom qui laisse entrevoir comme une forme de grandiloquence, 13 années 80, quand tout était encore possible dans le vieux monde de l'ultralibéralisme, des lumières, des conurbations, celles de la fête quand elle n'était pas encore terminée. Un trio rouennais formé en 2013 et composé d'André Pasquet, dont on a parlé tout à l'heure, Jean-François Riffaut, ancien bassiste de Syntax Error, Nicolas Cueil, connu aussi sous le patronyme de Seal of Quality, qu'on écoute, tiens. Feu Seal of Quality avec sa guitare et ses consoles de jeu, on va en parler aussi un peu puisque bientôt au 106 il sera question de l'apport des musiques de jeux vidéo dans la musique. The World avec aujourd'hui un album intitulé Night, et d'ailleurs on peut retrouver sur YouTube 8 vidéos, j'en ai vu une, l'épisode 3 qui est le plus accessible apparemment pour l'instant, dans lequel on sent tout le décalage que vous pouvez produire. Vous nous parlez juste de ces vidéos peut-être pour commencer?
Alors normalement c'est une série, il n'y en a pas 8, il y en a 6. Et c'est des espèces de mini-épisodes qui suivent un personnage dans lequel il y a toujours notre musique qui est quelque part dans ce monde, sur un autoradio, dans une télé, etc. Pour l'instant, il y a un épisode en ligne et on avait prévu que les autres soient en ligne un peu plus tôt. C'est pas encore le cas, mais ça devrait arriver dans les semaines qui viennent. Voilà, c'est un objet assez rigolo.
Donc il y a une forme de narration, l'idéal c'est de les voir tous les uns derrière les autres.
Oui, théoriquement, c'est une, comme une mini-série qui se regarde comme ça à la suite, quoi.
Mais en même temps, on peut aussi les voir de façon isolée, quoi.
Oui, voilà.
C'est en tout cas, le troisième épisode, moi, j'ai
net. Voilà. C'est celui dans lequel on apparaît, du coup, c'est celui qui avait été mis en... quand on a sorti le disque, justement.
C'est celui auquel, avec lequel vous jouez avec des pistolets à eau.
Exactement.
Enfin, avec un pistolet à eau.
Très juste.
Et qui joue, enfin, le personnage qui joue avec ce pistolet à eau s'amuse beaucoup. Vous parlez de néo-romantisme dans votre bio. Alors, plutôt celui des années... Oui, si, c'est vrai. Vous parlez de néo-romantisme. Alors, plutôt celui des années 80 dans la pop, on va dire. Et alors, moi, je suis comme tout le monde. Quand je vois un mot, je vais voir sur Wikipédia pour m'assurer que je ne me trompe pas trop quand on parle des choses. Par exemple, dans la case néo-romantique, on trouve Duran Duran. On trouve aussi Simple Minds. Culture Club. Ou encore, par exemple, Human League. Bon voilà, il y en avait plein, on aurait pu en piocher plein d'autres. Il manque peut-être la guitare dans ces extraits-là, c'est ce que je me disais pour faire référence à ce que vous produisez aujourd'hui. Alors on va essayer de décortiquer un petit peu ce que vous avez été chercher, ce que vous cherchez, à quoi ça correspond tout ça, parce qu'il n'y a pas que cette scène-là qui vous inspire et qui vous a permis de produire ce que vous produisez aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez des artistes de référence concernant ce courant de la musique moderne des années 80 alors du coup?
Bah, la musique très populaire, Michael Jackson, George Michael,
Prince,
Phil Collins,
Madonna.
Ouais. Et puis après, ouais, c'est plutôt, on s'inspire plutôt de choses populaires et puis aussi beaucoup de musique de films, de choses comme ça.
On va reparler des films tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a eu un travail préalable, je sais pas, d'écoute, de recherche de son ou d'un son particulier ou alors de thématique?
On s'est mis à faire de la musique ensemble, on était en trio avec Syntax Error avant, et ensuite on s'est mis à faire de la musique avec Nicolas, et puis on s'est mis à monter un trio ensuite en faisant de la musique un peu comme ça, puis avec les instruments qu'on avait, on a ramené un DX7, tout ça, et on pouvait pas trop faire autre chose que cette musique-là, finalement c'est ce qu'il y avait de plus évident, donc on s'est mis à le faire aussi en regardant des vidéos, des choses comme ça, des films.
C'est une musique un peu mal aimée, qu'on aime un peu en cachette, presque mal considérée, musique facile un peu. Parce qu'il y a un paradoxe, parce que vous êtes des musiciens plutôt très techniques. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe-là finalement?
Bon, on se voit pas comme très technique. Enfin, personnellement, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on soit très technique. Mais
non.
Non. Après, c'est des questions que nous, on ne s'est pas tellement posées, que les gens se posent un peu à notre place. Et
Mais après, oui, c'est vrai que sur le côté de la musique mal aimée, il y a un truc où, surtout chez une certaine génération, on a l'impression de jouer une musique dont, que certaines personnes étaient contentes d'avoir vu disparaître. Et nous, on ranime une espèce de zombie un peu crade qui bloque beaucoup de gens, mais en même temps qu'en séduit aussi beaucoup d'autres, plus peut-être les gens de notre génération à nous. Mais du coup, voilà, nous, on s'est pas... En fait, on s'est posé assez peu de questions au moment où on a commencé à faire cette musique. C'était... Voilà, le matos qu'on avait nous a conduit à cette musique-là. On écrivait des morceaux. Le soir, on regardait Robocop. Enfin, on était dans un truc où tout faisait sens pour nous et c'était une forme d'évidence là-dedans.
Mais c'est vrai que l'aspect transgressif d'aller chercher quelque chose qui fait que mettre les deux pieds dans ce truc-là, c'était assez excitant aussi. C'était un... Voilà, il y avait une forme
sorte de challenge un peu, de se dire on va aller piocher là-dedans et on va essayer de produire quelque chose d'abord qui soit 2020 quand même, et en même temps qui fasse entendre ces sonorités des années 80 quoi.
Alors cette question de 2020, je suis pas sûr qu'on se la soit posée vraiment, mais par contre oui, l'histoire de s'approprier quelque chose qui est un peu une forme d'interdit quoi, esthétique un peu.
Alors, on le disait, on fait aussi référence à une filmographie, des films comme Terminator. Ou encore Robocop, des acteurs tels que Tom Cruise, Michael J. Fox, Schwarzenegger ou Stallone. Leur film, effectivement, de l'époque à ces acteurs, on se rend compte qu'on baignait vraiment dans les années 80 dans une ambiance globale, une bande originale, une bande son. Et ça peut-être former le caractère de toute une génération. Vous aviez quel âge, vous, dans les années 80?
Eh ben, moi, je suis né en 1984. Donc, voilà.
Pareil, ouais. Et Jean-François.
Moi, en 79.
Ouais.
Alors, vous nous parlez de cette période, les années 80, pour vous, finalement, elle
bah, moi, je l'ai, à titre personnel, Enfin, je pense comme André, on l'a plus vécu un peu après coup. C'était plutôt ce qu'il en restait. Et du coup, après, je pense que notre musique, elle doit aussi autant aux années 90 finalement qu'aux années 80. Mais il y a un truc effectivement dans les films et tous ces trucs-là qu'on n'a pas forcément vu sur le moment, mais qui étaient devenus des espèces de standards et qu'on a connus après, quoi.
C'est ça, mais c'est des standards que finalement sur lesquels on retombe de,
oui.
On retombe dessus. De quelle façon on pioche dans la discothèque
Je pense, par exemple, je sais pas, tout ce qui est film, ça devait pas mal repasser à la télé en rediffusion, choses comme ça. Et après, comment on tombe là-dessus? Moi, je suis souvent surpris de... Il y a plein de gens, pour le coup, vraiment plus jeunes que nous, qui ont genre la vingtaine, et qui sont à fond dans ces esthétiques-là, alors qu'ils sont encore plus loin dans le temps que nous. Et donc, voilà, comment est-ce qu'eux, ils sont tombés là-dessus? Je sais pas non plus trop, mais...
C'est marrant parce qu'on en discutait avec Manu Sagawa tout à l'heure de cette période, les années 80 et de cette musique-là. On se dit que c'est la dernière période finalement où il y avait encore la possibilité de se sentir grand et fort en faisant de la musique avec des solos et qu'aujourd'hui ça devient complètement ridicule de se dire ça quoi en fait. Est-ce que ça viendrait pas de ça, cette espèce d'espoir un peu insensé que le monde allait devenir extraordinairement beau, que tout le monde serait riche et qu'aujourd'hui finalement on se rend compte qu'on porte des gilets jaunes quoi, voilà. Je sais pas, bon, c'est peut-être de la philosophie de bas étage.
Non mais en fait nous comme on était enfants, pardon vas-y.
Ouais bah c'est, on en parlait tout à l'heure aussi un petit peu, c'est qu'il y a, aussi des amis qui ont genre 45 balais aujourd'hui. Qui en fait on subit la musique des années 80 et en fait ils ont vu débouler genre Nirvana à l'époque où puis du coup c'était la libération quoi, c'était un peu ah putain fini ce truc et je sais plus ce que je voulais dire.
Et du coup ils ont du mal à replonger dedans quoi.
Ouais voilà.
En fait, y a toute une génération pour laquelle c'est un peu c'est ça évoque de l'ennui quoi ces trucs là. Alors que, enfin, pour les gens un peu plus vieux, alors que pour nous c'est quand même l'enfance. Enfin, c'est un truc plus enthousiaste.
Ouais,
que ça.
C'est ça.
Donc il y a un petit côté régressif et nostalgique dans ce que vous produisez, non?
Bah, nostalgie d'un truc qu'on n'a pas connu parce qu'on on projette ça sur la puissance qu'on pouvait peut-être avoir à l'époque, mais en fait il y a des gens qui galéraient comme tout le monde dans les années 80 aussi. Enfin,
oui, c'est un truc un peu fantasmé finalement, mais du coup c'est d'autant plus marrant Nous, par exemple, dans nos textes, on parle beaucoup du monde des affaires, on évoque beaucoup ce fantasme d'un succès un peu sans limite où on voit pas, on n'en pense pas à l'effondrement qu'il y a derrière. Et faire cette musique-là avec ce discours-là dans l'époque actuelle, c'est quand même quelque chose d'un peu aussi excitant là-dedans. Enfin, c'est quand même une sorte de coup de loupe en arrière qui est un peu... Enfin, là, qui nous fait, c'est un matériau qui nous fait quand même bien marrer.
J'ai même cru comprendre que vous achetiez les livres de Bernard Tapie.
Alors, je ne l'ai pas acheté.
Ah bon?
Je l'ai trouvé. Mais je l'ai pris quand même. J'ai l'intention de le lire. Sa biographie qui s'appelle Gagner.
Et donc, du coup, ça pourrait nourrir la suite
mais
de The World.
Complètement. Ça, c'est évident. C'est un peu un personnage qui, pour le coup, est complètement...
emblématique.
Complètement The World, quoi.
Alors, Seal of Quality, juste, on va l'évoquer un peu, même si Seal of Quality, ça n'existe plus. Mm-hmm. Vous êtes désormais basé sur Tours, vous avez abandonné cette histoire de Seal of Quality. Mais je voulais juste l'évoquer parce qu'à partir du 30 janvier, on a une expo sur un site qui s'appelle Pixel Rhapsody, vernissage le 30 janvier à 18h30 avec Totoro and Friends en game concert. C'est gratuit. Le 106 est donc l'association Pixel qui retrace donc la place de la musique, de jeux vidéo dans le monde culturel, son esthétique chiptune des premiers temps aux compositions d'aujourd'hui, ainsi que sa reconnaissance progressive du petit écran à la salle d'opéra. Alors c'est marrant parce qu'on pourrait presque faire un parallèle avec ces musiques des années 80. Ça doit vous plaire finalement qu'on puisse faire ce genre d'expo aujourd'hui et de la mise en avant de ces musiques-là, non ?
Bah oui, enfin oui,
parce qu'il y a une vraie, on valide aussi quelque chose au travers de ça, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une vraie création musicale qui forcément est directement issue des jeux vidéo aujourd'hui, des jeux vidéo des années 80-90 quoi.
Oui, carrément. Bah c'est sûr que maintenant c'est vraiment reconnu que les compositeurs de musique de jeux vidéo c'était avant tout des compositeurs. Enfin après, comme dans tout, y a des trucs super nuls, mais il y a quand même aussi des chefs-d'œuvre là-dedans. Et du coup, effectivement, on s'y intéressait pas trop il y a peut-être 10-20 ans. Et comme évidemment, les gens qui jouaient aux jeux vidéo quand ils étaient jeunes, maintenant, ils sont en âge d'organiser par exemple des expos et de faire des choses. On parle de tous ces trucs-là. Et oui, c'est plutôt chouette.
On peut faire un lien entre The World et Seal of Quality sur
The World, il y a un truc déjà dans le... Bon, déjà un peu d'époque. Enfin, clairement... Le gros boom des jeux vidéo quand même dans les années 80, il s'est quand même passé plein de trucs et tout, même au niveau des sons, il y a plein de sons de synthé qu'on a qui évoquent vraiment, ou même des morceaux qu'on fait qui ressemblent à des trucs de Super Nintendo ou de Mega Drive, enfin clairement, même si c'est pas quelque chose qu'on s'est dit, mais c'est esthétiquement, oui, il y a des corrélations évidentes.
Et d'ailleurs, même, moi, je pensais en même temps à Syntax Error et à ce visuel de la pochette d'album. Tout ça était aussi un peu très années 80 déjà, dans l'imagerie qui ressortait. Non,
on n'a pas vraiment pensé aux années 80, où c'était plus numérique, quoi. C'était le nombre, c'était que des paroles à base de chiffres ou de trucs comme ça. Donc
oui,
c'était
ça.
Un peu le pixel. Mais en tout cas, oui, ça pouvait y faire penser peut-être, ouais. Mais en tout cas, on n'y a pas vraiment pensé.
Pour en revenir à The World, comment et à quel moment, au bout de quelle discussion, vous êtes-vous dit que vous alliez partir dans cette direction-là ? Alors, on l'a vu, c'était ma question, elle arrive un peu après votre réponse, puisque vous l'avez donnée tout à l'heure. Mais il y a quand même eu un moment où vous vous êtes mis autour de la table et vous vous êtes dit, bon, allez, on va partir dans cette direction-là, parce que ces sons-là, ils nous parlent.
Comme on disait tout à l'heure, c'est un peu partie des sons. Et puis finalement, il y a un répertoire qui s'est construit, puis on a eu l'image de The World, elle nous est apparue, on n'a quasiment pas eu besoin d'en parler, de se dire on va faire ça. Enfin, je pense que le moment même où on s'est mis à écrire des paroles pour ce groupe, il n'y a pas eu de... Tout était de l'évidence en fait dès le début, et finalement il y a eu assez peu de brainstorming ou de trucs vraiment prémédités.
Bah direct, quand on a commencé à jouer avec ces sons-là, on s'est dit qu'il y avait fallait faire que des trucs où on a déjà gagné un peu, où c'est toujours un peu autour de... Donc c'était marrant, il y avait un truc un peu grisant dans un grenier où on faisait ça à l'époque, qui était vraiment chouette, quoi.
Et on évoquait Bernard Tapie, le fait de parler de l'argent, des affaires, de la réussite, de la puissance. Vous voulez dire quelque chose de particulier dans le fond avec ce groupe et avec ce répertoire-là, ou est-ce que c'est juste du fun, quoi ?
Bon, après, je sais pas si nous, on a envie de qu'il y ait un message vraiment derrière ce groupe. Après, il est évident que l'image qu'on projette et les choses qu'on raconte, on les lit un peu comme on veut, quoi. On peut les prendre vraiment super premier degré ou alors pas du tout. Enfin, mais après, ça, c'est pas à nous de décider ce que les gens doivent lire là-dedans.
Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Le programme du 106 cette semaine, il est chargé. Se joue en ce moment même, mardi 29 janvier, le 106 Experience numéro 79 avec les groupes Elegant Tramp, Arnold, Rapido et Pollux. Demain, mercredi 30 janvier, c'est le vernissage de l'exposition Pixel Rhapsody consacrée aux musiques de jeux vidéo avec un concert un petit peu spécial de Totoro and Friends et c'est gratuit. Jeudi soir, concert des Négresses Vertes et de Arsène Lupunk. Vendredi soir, concert de Angèle. Et samedi soir, concert de Flavien Berger dans la grande salle. Tandis que le club accueillera une nouvelle édition des Nuits de l'Alligator. Avec les artistes JP Bimini and the Black Belts, Anne O'Haro et Muddy Gurdy. À la semaine prochaine.
Good evening. Tonight, there's something special to talk about. Drugs. And I've asked someone very special to join us in the world.
Merci.
The message this evening is not my message, but ours. Thank you for joining us.